Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et on a commencé d'en parler mercredi. Je sens de continuer aujourd'hui, mais on va faire un petit peu un résumé de ce qu'on a dit mercredi
pour
que ça puisse vous aider.
Et
en fait, le Saint-Esprit m'a mis un sujet, un cœur, qui concerne une autre dimension spirituelle dans laquelle peu de personnes entrent. Non pas parce que c'est réservé seulement à quelques-uns, mais parce que ça demande une compréhension, premièrement. Deuxièmement, une vie dont les mentalités sont complètement transformées. Et troisièmement, une soumission parfaite à Dieu et à son esprit. On va relire ensemble, parce que c'est comme ça qu'on avait commencé mercredi, Exode chapitre 24, versets 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen.
Ngo nuko Mose aduga kuri uwo musozi cya gicu kigipfungukiramo twikira ubwiza bw'Uhoraho uguma kuri uwo musozi Sinayi icyo gipfungu gitwikira iminsi 6 ku munsi ubwirandwi Uhoraho ahamagara Mose n'ijwi rirenga ari muri icyo gicu kigipfungu ishusho y'ubwiza bw'Uhoraho Abisirayeli bayibona isa n'umuriro utongora ku gatwe k'uwo musozi. Nuko Mose adwebera hagati muri icyo gifungu aduga kuri uwo musozi awumara ku iminsi 40 n'amajoro 40.
Quand j'ai préparé cet enseignement,
c'est
le premier passage que le Seigneur m'a donné. Et la réflexion, vraiment, ce qui m'est venu comme ça, c'est la dimension dans laquelle le temps n'existe pas. Vous savez, nous vivons sur cette terre et la terre est assujettie au temps. Je ne sais pas exactement comment Dieu a fait les choses parce que la ligne du temps, on ne peut pas la voir avec nos yeux. Moi, personnellement, je vois le temps sur la terre comme un toit, comme ce toit qui est là. Et quand on est en dessous du toit, on est assujetti au temps. Les jours comptent, les semaines, les mois, les années. Et si on est au-dessus, on arrive à passer au-dessus de cette ligne du temps, on est dans le domaine de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève,
il
n'avait pas prévu que Adam et Ève vieillissent et qu'ils finissent par mourir. C'est à cause de la chute, c'est à cause du péché que ces choses sont arrivées. Et je pense que avant Adam et Ève, avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas cette restriction du temps sur la terre. C'était comme le ciel. Tout était parfait. Parfait en tout point. Mais aujourd'hui, nous sommes sous ce temps. Ce temps que vous connaissez, avec les limitations que vous connaissez. Mais à côté de cela, pour les hommes et les femmes,
Et tu peux
être cette personne. Ce n'est pas une question de se dire je suis meilleur que les autres, je suis plus éduqué, je suis plus intelligent, je suis plus spirituel. Ça n'a rien à voir. Parce qu'à différentes périodes, dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu l'a permis à cause de certains événements particuliers. Parce que Moïse a été investi d'une mission incroyable. Au travers de laquelle Dieu a dû manifester sa puissance maintes fois. D'une part pour faire reculer les ennemis et permettre au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Et d'autre part, quand ils étaient dans le désert, Dieu a dû manifester sa puissance d'une façon inimaginable à plusieurs reprises pour que le peuple comprenne qui est Dieu et que Moïse était choisi et envoyé de Dieu pour accomplir cette mission. Amen. Ça, c'est ce qui concerne Moïse. Nous sommes dans un temps particulier car nous sommes, je dis, nous sommes dans le temps du réveil. Pendant de nombreuses années, nous avons parlé, prophétisé, prié et dit « Le réveil vient ». Et maintenant, les choses changent. Le réveil est là. Le réveil est là. Et il va se manifester. De la même façon. Pas dans les mêmes aspects, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir les 10 plaies d'Égypte ni des choses semblables. Mais de la même façon, dans une dimension surnaturelle, constante, continuelle. On voit que au travers des temps, au travers des églises, des serviteurs de Dieu. Il y a eu des temps de ténèbres où même pendant une époque, le baptême du Saint-Esprit, on ne savait même plus ce que c'était. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas oublié ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Et il a amené le réveil de la Pentecôte dans les années 1900. Et comme je vous dis, il y a eu des temps de sommeil, des temps de réveil, des temps entre les deux, et des temps dans lesquels, de temps à autre, je dis bien de temps à autre, les hommes ou des femmes ont su contacter le monde spirituel pour amener les choses de Dieu sur cette terre. Et pour certains, ça n'a été que de temps à autre. Dieu veut amener un temps dans lequel nous sommes où ces choses vont être continuelles. Nous sommes en train de sortir de l'époque où quand on parle de miracles, il s'agit seulement de petites choses. J'avais mal à la tête, Dieu m'a guéri. Ça, c'est bien. J'avais mal aux dents, Dieu m'a guéri. J'avais mal au dos, Dieu m'a guéri. Parce que ça, c'est l'époque où même les médicaments peuvent guérir ça. N'est-ce pas? Et rappelez-vous, un peu avant dans l'Exode, il y a eu des signes et des miracles qui ont été accomplis par Moïse. Mais les magiciens de Pharaon aussi réussissaient à faire les mêmes choses. Et c'est un petit peu... Oh Seigneur, aide-moi. C'est un petit peu la même image que les médicaments peuvent guérir une maladie quelconque. Mais il est arrivé un temps où certains miracles ont été accomplis au travers de Moïse. Et tous ces magiciens, tous ces gens-là n'ont pas pu copier parce que c'est rentré dans un niveau beaucoup plus élevé, dans une dimension beaucoup plus grande. Et moi je dis dans le nom de Jésus, nous sommes en train de sortir du temps des miracles qu'on voit au microscope, des petites choses pour entrer dans les grandes choses. Mais ça nous demande, écoutez bien frères et sœurs, de changer de dimension. Qui veut changer de dimension? C'est pas à moi que vous répondez. Qui veut changer de dimension? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse? Regardez, il était sur la montagne. Et il a attendu 6 jours. Le problème qu'il y a et le problème qui se passe, parce que je sens que j'ai dit ça avant mercredi, je dois le dire encore. Le problème qui se passe, c'est qu'on vit dans une société. Et ici en Afrique, c'est moins le cas, mais ailleurs, c'est vraiment beaucoup, c'est terriblement comme ça.
Muri Afrika si byinshi ariko handi ni byinshi.
Où on veut que les choses se passent comme ça.
Aho tugomba ku bintu bikore kuko.
Se dit, je change de dimension, paf, en 10 secondes.
Ati ma seconde 10 ndahinduye urugezo ngiye mu rugo.
Ici, on voit Moïse.
Hano turabona Mose.
Il a attendu 6 jours.
Yarindiriye iminsi 6.
Il a attendu pendant 6 jours.
Yararindiriye iminsi 6.
Parce que pendant 6 jours,
ku iyo minsi 6.
Il a eu besoin d'être vidé de ses pensées, de ses idées, de ses raisonnements, de lui-même. Et c'est le 6e jour qu'il a été prêt à rentrer dans la colonne de nuée et d'entendre la voix de Dieu. Il lui a fallu 6 jours. Ne pensez pas que c'était des jours inutiles. Il lui a fallu 6 jours pour sortir de lui-même et d'entrer dans cette dimension. Parce qu'il a passé 40 jours sans manger et sans boire. Et ça, ce n'est pas normal. Amen.
Amen.
On peut éventuellement, si on est en bonne santé, faire 40 jours de jeûne. Mais si c'est toi qui initie ces choses, la seule chose que tu vas gagner, c'est que tu auras perdu tes kilos superflus. Amen.
Amen.
Amen. Si c'est initié de Dieu, ça c'est une autre chose.
Mais
40 jours sans boire, ça n'existe pas. Ça montre que Moïse est entré dans une autre dimension, là où le temps n'existe pas. Pendant que sur la terre, les hommes étaient toujours là et les jours continuaient pour eux. C'est comme ça qu'on peut expliquer ce miracle. Il existe cette dimension dans laquelle le Saint-Esprit veut faire rentrer beaucoup de personnes. Je
vous
rappelle, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a certaines choses qu'il faut que l'on voie. On va regarder un autre exemple qui concerne cette autre dimension.
On
va lire dans Luc chapitre 9, versets 28 et 35. Parce que savoir que cette dimension existe, c'est une chose. Vouloir y rentrer, c'est une chose. Mais y rentrer vraiment, c'en est une autre. Et j'aimerais poser les fondations ce matin qui vont vous aider à comprendre et à pouvoir en rentrer vous-même dans ces choses-là. Luc chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, pardon, et une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Amen.
Ngo hanyuma yayo majambo hashize iminsi nka munani ajana Petero na Yohani na Yakobo aduga igisozi aja gusenga ariko arasenga ishusho yo mu maso yiwe ihinduka ukundi imyambaro yiwe yeraderere irakayangana abagabo babiri bavugana nawe yari Mose na Eliya baboneka bafise ubwiza bavuga ibyo kuzotambura kwiwe agira inonosore y'Yerusalemu Petero n'abari kumwe nawe bari baremerewe n'itiro bikanguye rwose babona ubwiza bwiwe n'abo bagabo babiri bahagararanye nawe bagira batandukana na Petero abwira Yesu ati mwigisha bitubereye byiza ko turi hano nuko duce isago zitatu rumwe rwawe urundi rwa Mose urundi rwa Eliya nyarazi ibyavuga akibivuga igicu cigipfungu kiraza kibatera igitutu icyo gipfungu kikibashikako baratinya ijwi ririva mu ijuru riti nguyu umwana wanje natoranije nimumwumvire iryo jwi rishize Yesu aboneka ari umwe barabibona ntihagira n'umwe muri bo muri iminsi babwira na kimwe mu byo babonye
amen
amen
il y a plusieurs choses par rapport à ce texte
hari byinshi ku bijyanye n'iki
d'abord on va voir ce qui concerne Jésus
ubwa mbere turaraba ibyerekeranye na
Jésus était quelqu'un
Yesu yari umuntu
qui passait beaucoup de temps
yamara kanya kanini
beaucoup de temps dans la prière
umwanya munini ari mu bwiza mu masengesho
le matin il lisait les évangiles vous verrez à différents passages qui en parlent
musome mu tumwa bwiza murabona
musoma
byinshi bivuga
il se levait très tôt pour prier
mugatondo yavyuka kare cyane kugira ngo asenge
passer la nuit en prière
ijoro ari mara kanya
après avoir exercé le ministère toute la journée
amaze gukora ico gikogwa
avoir notamment nourri toute une foule et être fatigué
yirwaga buri sinzi ry'abantu arushe
au lieu de dire je vais me reposer.
Il
montait sur la montagne pour prier. Jésus, c'est celui qui nous a montré au travers de sa vie qu'il existe cette dimension. Quand Jésus était sur la montagne,
ce
n'était pas pour dire beaucoup de choses. Ce n'était pas pour parler sans cesse et continuellement. Parce que pour certaines personnes, la prière, c'est juste un monologue. C'est comme s'ils parlent tout seuls. Ils racontent leurs histoires, ils se parlent à eux-mêmes en pensant parler à Dieu, mais ils ne le font pas. Ou ils disent parfois des choses insensées ou des choses inutiles. Des choses insensées du style Seigneur, si tu le veux, je prendrai le bus aujourd'hui pour aller au marché. C'est insensé. Ça n'a aucun sens. Et c'est inutile. Ou ce genre de prière. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je veux te bénir. Gloire à ton saint nom. Dans le nom de Jésus, tu es tout puissant, tu es merveilleux. Seigneur, je prie pour telle chose. Dans le nom de Jésus, alléluia, amen, tu es tout puissant, tu es merveilleux. C'est des prières qui sont fatigantes. Et encore, c'est ce que j'ai fait, elle avait quand même un peu de sens. Parce qu'il y en a qui font ce genre de prière. Ça ne veut rien dire. Si tu retires tous les amen, tous les alléluia, tous les tout-puissants, tout dans le nom de Jésus, tu es élevé, il
ne
reste plus rien. Et quand Jésus était dans la présence de Dieu, le Père lui parlait. Rappelez-vous, Jésus disait que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais tout ce que le Père lui montre, il le fait pareillement. Et c'est là qu'il était. à écouter le Père, à recevoir du Père. Quand il a choisi les 12 apôtres, il n'a pas pris n'importe qui. Il n'a pas dit, allez, les 12 premiers, venez vite. C'est vous que je vais choisir. Il
n'a
pas fait comme ça. Quand il allait dans un endroit ou dans un autre, ce n'était jamais le fruit du hasard. Et pour en revenir à ce texte, puisqu'on parle de Jésus, il était en train de prier. Il était sur la montagne et quand il était en train de prier, il a commencé à entrer dans cette autre dimension. C'est pour ça que l'aspect de son visage a changé. Vous rappelez Moïse quand il montait sur la montagne? Moïse, quand il montait sur la montagne, son visage resplendissait. Et quand il redescendait, il était obligé de mettre un voile sur son visage pour que les gens ne voient pas, non pas que son visage resplendissait, mais pour que les gens ne voient pas la fin de cela. Parce qu'avec le temps, ça s'atténuait. Jésus est sur la montagne et son visage commence à resplendir. Ses vêtements deviennent d'une éclatante blancheur. Et il y a cette vision de Moïse et d'Élie. Regardez bien la suite. La réaction de Pierre et de ses compagnons. Parce que bien souvent, c'est la réaction des hommes. Malheureusement, des hommes qui sont nés de nouveau.
Amen.
Alors que eux, Pierre et ses compagnons, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont eu peur, c'est normal. Je vous assure que ce genre d'expérience est très saisissante. Il y avait un homme de Dieu qui priait et qui disait, quand il était jeune, il était déjà dans le ministère, il disait, Seigneur, je veux te voir. Vous ne savez pas ce que vous dites quand vous dites ça. Seigneur, je veux te voir. J'ai besoin de te voir. Je veux te voir. Et le Seigneur lui dit, d'accord. Dans 3 jours, à minuit pile, je rentrerai dans ta chambre et je viendrai te voir. Alors, il n'avait rien dit. Il était très content. Il était couché dans son lit. Et sa femme était aussi à côté de lui. Et minuit approche. Et sa femme tombe dans un sommeil surnaturel.
Il
lui fait comme ça. Elle ne bouge même pas, elle ne se réveille plus. Et tout à coup, il y a les rideaux de sa chambre qui commence à bouger. Il y a un vent terrible. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Il a pris ses draps et il a fait comme ça. Il avait les yeux fermés comme ça. Le Seigneur dit, je suis là. Et il n'a même pas pu baisser les draps. Et après, quelques minutes après, le Seigneur est reparti. Et il a vraiment compris quelque chose. Amen. Amen. Voir Dieu. D'abord, voir le visage de Dieu, c'est impossible. Mais voir Jésus, c'est une expérience qui est extrêmement saisissante et effrayante. Ça, je peux vous le dire. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil. Alors que Jésus est en train devant eux, resplendissant de gloire, en train de parler, enfin c'était bien sûr une vision avec Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Amen. Amen. Quand Moïse était les 6 jours sur la montagne, il n'était pas, je pense, en train de dormir. Amen. 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 Donc on voit les compagnons qui sont en train de dormir. Et tout à coup, ils voient la gloire de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pierre va dire, si on pouvait, ça serait bien que, c'est bien qu'on soit ici, hein. Dressons trois tentes. Je
ne
sais pas avec quoi il aurait dressé des tentes. Parce qu'ils sont montés en n'ayant rien.
Ils
commencent à dire des choses qui n'ont pas de sens. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont effrayés. Donc, par rapport à cela et par rapport à ce passage, moi, ce que je vous dis, que votre vie de prière repose sur. Donne-moi de comprendre. Seigneur, donne-moi de comprendre ce que je ne comprends pas. Et priez tous les jours. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Vous savez, parfois, on sait. On sait que telle chose, on ne la comprend pas. Mais parfois aussi, on ne sait pas. Parce qu'on pense comprendre alors qu'on ne comprend pas. Amen. Amen. Et nous avons vraiment besoin de révélation. Nous avons besoin de compréhension. Parce que si nous ne comprenons pas, nous ne pourrons jamais rentrer dans ces choses. Et si nous rentrons dans ces choses et que nous ne les comprenons pas, ça va être un désastre. Amen. Ça va être une catastrophe. Parce que les choses surnaturelles, les choses naturelles ne sont pas les mêmes choses. Amen. Quand on voit Jésus, et je veux revenir toujours à la personne de Jésus. Jésus, Dieu le Fils, incarné dans une chair qui manifestait parfaitement cette dimension. Lorsqu'il était au milieu des hommes, qu'est-ce qu'il a trouvé? De l'incompréhension. Ce passage est caractéristique, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul passage. Il y a tout au long de la parole de Dieu, tout au long des évangiles, des passages dans lesquels on voit que personne ne comprend. La foule ne comprend pas. Les disciples eux-mêmes ne comprennent pas. Et les pharisiens, les juifs, ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre. Amen. Et quand et là aussi, ça c'est maintenant le deuxième aspect. Le deuxième aspect de la compréhension. D'abord, premièrement, priez pour comprendre Dieu. Et ça, je vous assure que vous pourrez prier jour et nuit pendant longtemps et je ne sais même pas si on arrivera bien à tout comprendre. Amen. Non pas parce que Dieu est compliqué, mais parce que Dieu est différent de nous. Première chose. Et deuxième chose, quand vous vous trouvez face à quelque chose que vous ne comprenez pas, faites très attention. Écoutez-moi bien. Quand tu es devant quelque chose que tu ne comprends pas, fais très attention à tes réactions, à ce que tu vas en penser, ou à ce que tu vas en dire. Et je vous assure que le Seigneur me parle tout le temps en ce moment. Personnellement, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je ne me précipite vraiment pas pour en tirer des conclusions. Au niveau de ce que j'en pense ou au niveau de ce que j'en dis. Parce que vous savez, quand on parle des choses qu'on ne connaît pas, des choses saintes de Dieu, qu'on commence à manifester une opinion humaine ou parfois avoir de la critique dans notre cœur, on risque de se retrouver à faire la chose suivante, c'est-à-dire trop parler. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.
ngo migani 10:19 ngo nisinzi ry'amajambo ntihaburamwo ugucumura ariko uwigarura mu by'iminwa avuga numu avuga ari umunyabwenge.
Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le fait de ne pas trop parler et le fait de rentrer dans cette dimension ou de voir cette dimension surnaturelle se manifester? Je vais vous expliquer le rapport. Vous savez, quand Jésus, dans Jean chapitre 9, rencontre cet homme qui est aveugle de naissance, il va cracher par terre, il va mélanger sa salive avec de la terre, il va faire de la boue, il va mettre sur les yeux de l'aveugle et va dire à cet homme, va te laver au réservoir de Siloé.
Vous
connaissez cette histoire? Amen. Si aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus qui est ici au milieu de nous en chair, mais si aujourd'hui, un homme ou une femme de Dieu qui entre dans cette dimension de gloire et reproduit, font exactement cette même chose. Et si, admettons que cette chose n'ait jamais été écrite dans la Bible, nous le savons parce que c'est écrit dans la Bible. Mais si on dit, disons que l'histoire de cet aveugle n'est pas écrite dans la Bible, quelqu'un vient, personne ne connaît cette histoire, quelqu'un vient, il crache par terre, il fait de la boue, il met sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Comment, à votre avis, les gens vont réagir? Comment ils vont réagir si cette histoire n'était pas écrite dans la Bible? Comment les gens vont réagir? Il y en a qui vont dire, pour qui il se prend celui-là? Il est dégoûtant. Il ose cracher par terre. Cracher, c'est sale. Mélanger ça avec de la boue. Je
ne
vois pas où Dieu est dans ces choses. Mais comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? Déjà, le pauvre aveugle, il est aveugle. Il n'y a pas besoin de lui en rajouter une couche et de l'humilier davantage. Voilà comment les gens parlent. Amen. Parce qu'ils analysent, ils jugent la moindre chose, le moindre geste, ils mettent une étiquette dessus, et si malheureusement ils sont comme les pharisiens, c'est-à-dire jaloux, là ça va provoquer de sérieux dégâts. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si tu ne comprends pas, tais-toi et dis, Seigneur, est-ce que Dieu sait? Ne dis pas à ton voisin, au fait, tu sais quoi? Dis-moi un peu ce que tu en penses. Parce que ton voisin est comme toi. Il a des pensées humaines. Amen. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et du fait qu'on a souvent cette mentalité fermée, parce que nous avons nos idées préconçues, comme Naaman. Vous connaissez Naaman, le lépreux. Quand il a été guéri, dans 2 Rois chapitre 5, c'est un homme qui n'avait aucune connaissance. Il a entendu parler de la guérison, il est venu à Jérusalem. Il s'est trompé de porte, il a été voir le roi Joram au lieu d'aller voir le prophète Élisée. Et puis finalement, quand il arrive chez le prophète Élisée, ouvrez vos Bibles dans 2 Rois chapitre 5, il y a la chose suivante qui se passe, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lève-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur.
Ngo Elisa araheza aramutumako ati genda wiyuhagire muri Yorodani ibihetanga bondwi umubiri uraca usubira uko wahora nawe uzoba uhumanutse.
Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux.
Ngo ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngize ngo arasohoka ahagarare atambire atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe azungagize ukuboko kwiwe hejuru yaho ngwaye ankize imibembe.
Vous savez, Naaman c'était un homme important.
Murazi Namani yari umuntu w'umukuru.
C'était le chef de l'armée de Syrie.
Yari utwara ingabo z'Syrie.
C'était un homme qui était très important.
Yari umuntu ahambaye.
Et il vient à Jérusalem, un pays qui a été conquis par, du moins qui a été écrasé par les Syriens, et il vient pour chercher sa guérison. Il vient pour chercher Dieu. Réfléchissez maintenant avec les mentalités que vous connaissez. Je ne dis pas que vous avez vous spécialement, mais que vous connaissez. Des choses que vous avez déjà vues, que vous connaissez. Des choses qui se produisent régulièrement. Si un homme aussi important vient, le prophète, il ne prend même pas la peine de sortir de chez lui. Il ne sort pas de chez lui. Il envoie quelqu'un et lui dit, dis-lui qu'il aille se tremper cette fois dans le Jourdain. Comment est-ce que les gens peuvent réagir? Comment d'ailleurs est-ce que d'une manière générale, les gens ont tendance à réagir? Ils vont dire, vraiment, c'est Élisée. Ils vont faire, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. C'est en Afrique de l'Ouest qu'on fait ça. Pas ici. Parce que je vois que tu ne le fais pas très bien. Ça ne va pas du tout. Et il va y avoir des comités. Il va y avoir des réunions. Il va y avoir machin chose qui se croit très spirituel, qui va appeler les autres, qui va dire, il serait temps de penser à remplacer Élisée par moi. Vous connaissez ça? Vous connaissez ce genre de réaction? Et puis les autres disent, oh, franchement, vraiment, vraiment, j'aurais jamais cru ça. Le chef, mais tu imagines, le chef de l'armée de Syrie. Vraiment, c'est Élisée. Ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas. Il est en train de dérailler là. Il faudrait faire un comité pour aller lui remonter un peu les bretelles. Lui remettre les idées en place. Vraiment, Élisée, non. Non, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Et après, ça c'est déjà la première chose. Et après, il y aurait eu tout un groupe de gens qui seraient partis voir Naaman et faire des excuses et de la diplomatie. Oh, vraiment, grand Naaman, Monsieur le chef de Syrie, nous sommes vraiment très désolés. Très désolés de l'attitude lamentable d'Élisée. Vraiment, accepte nos excuses. Mais en fait, ce n'est pas des excuses, c'est pour montrer qu'ils sont meilleurs qu'Élisée. Vous connaissez ce genre d'attitude. Amen. Sauf que Élisée était en train de faire exactement ce qu'il fallait faire. Mais personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait le comprendre. Élisée, qu'est-ce que ça a déclenché en lui? De la colère. Il pensait qu'on allait l'accueillir, qu'on allait venir le voir, agiter la main comme si, agiter la main comme ça, et guérir le lépreux. C'était pas un homme qui avait un mauvais cœur. Il n'était pas mauvais. D'ailleurs, la fin de l'histoire le montre. Vous pourrez lire tout le chapitre 5 de Deux Rois. Mais il était dans l'erreur. Et Dieu a dirigé exactement Élisée de cette manière-là, afin que le Seigneur puisse se faire connaître à Naaman. Sinon, Naaman aurait regardé au prophète et encore le prophète et toujours le prophète. Amen. Il a fallu aussi que Naaman apprenne une leçon d'humilité. Et quand on est en train de juger, d'évaluer, d'abord les choses, les petites choses, ça ne bénit personne, ça fatigue et ça décourage. Mais quand on commence à juger, à évaluer, à mettre notre approbation ou notre désapprobation, nos idées sur les choses que Dieu fait, surtout quand ce sont de très grandes choses, c'est très dangereux. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est extrêmement dangereux. Vous savez, il y a cet exemple que j'aime donné assez régulièrement dans le ministère de Smith Wigglesworth. C'était un homme qui était hardi dans la foi. Et il faisait exactement ce que Dieu lui disait de faire. Il sentait une impulsion et il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Mais dans cette dimension d'ailleurs, écoutez bien, dans cette dimension, il y a des choses que Dieu va te laisser décider et faire toi-même. Vous voyez, ce n'est plus le petit bébé ni le petit enfant, c'est l'adulte spirituel. Et ce que Smith Wigglesworth faisait souvent, prier pour les gens. Il y a des gens, vous savez, à cette époque, qui avaient des tumeurs vraiment graves parce que la médecine n'était pas avancée. Il attrape la tumeur et il l'arrache. Imaginez quelqu'un qui voit ça, comment il peut le prendre. Fais attention de jamais mal le prendre. Garde-toi de penser quelque chose. Et dis-toi seulement, bon, moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais Seigneur, c'est intéressant, j'aimerais bien un jour aussi faire comme ça. Sinon, tu te mets en danger. Très gravement en danger. Et un jour, il y avait une personne qui était mourante, tellement malade qu'il n'a pas pu venir sur ses pieds, ni même sur une chaise roulante. L'emmené sur un brancard. À la fin de la réunion, il prie pour lui. Et en fait, c'était les dernières secondes de sa vie. Et comme c'était un homme de Dieu qui savait marcher dans cette dimension, il l'a vu. Il a vu que cette personne pour qui il allait prier était en train de partir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait deux personnes qui soutenaient l'autre qui était en train de mourir. Il avait un cancer de l'estomac. Il a donné un énorme coup de poing dans l'estomac. Et la personne est partie voler loin là-bas derrière. Et les gens, ils étaient tous choqué. Vous savez, il y a des charlatans. Amen. Il y a des charlatans, il y a des gens qui font des trucs bizarres, on peut être choqué. Ou on peut se permettre de dire, celui-là, il a vraiment un problème, c'est pas juste. Mais quand il s'agit d'un homme ou d'une femme de Dieu qui est loin, j'aurais peut-être pas fait comme ça. J'aurais peut-être pas fait comme ça. Et il y a des gens qui étaient autour qui n'ont pas compris et qui ont eu cette réaction et commencé à se fâcher en se disant, mais quand même, donne des coups de poing aux gens. Et après, ils vont le voir. Il était mort par terre. Il était mort, mort de chez mort. Et les gens étaient trop scandalisés. Mais lui, il est venu. Il a pris par la main, il a relevé et la personne était entièrement guérie. Dieu veut nous faire rentrer dans cette dimension. Cette dimension existe. Elle n'est pas réservée à une ou deux personnes, mais à tous ceux qui sont prêts à laisser leurs idées de côté. Dis, Seigneur, tout ce que tu veux, ce que tu veux, je le veux. Tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je vais le faire. Je vais le faire. parce que je veux voir ta gloire sur cette terre. Et je vous assure que quand ce genre de choses se produisent, pas besoin de supplier les gens de venir à l'heure à l'église. J'ai vu des photos des photos de cette époque-là de Catherine Kuhlmann. Avant les réunions, au moment où on ouvrait les portes, les gens, ils étaient tous massés dehors. Et c'était une course. J'ai vu des femmes. Vous savez, voir les hommes courir, c'est normal. Et voir les femmes courir, c'est déjà un peu moins normal. C'était les femmes qui étaient en première ligne. Et elles étaient en train de courir comme ça. Excuse-moi. Ils étaient en train de courir comme ça. C'est pousse-toi de là, c'est moi qui vais devant. Est-ce que vous voulez voir ça? Amen. Et si on ne voit pas cela, nous n'avons aucun droit de dire oh, les gens sont froids en ce moment, c'est normal, la guerre est finie, chacun va qu'à ses occupations, ils n'ont pas le temps de venir à l'église, celui-là cultive ses champs, celui-là fait du sport, ils n'ont pas grand chose, donc ils n'ont pas vraiment peur de grand chose, donc ils ne vont pas venir à l'église, c'est de leur faute. J'ai dit non, c'est pas de leur faute, c'est de notre faute. Amen. C'est de notre faute, c'est de notre faute. Amen. Dites avec moi, c'est de notre faute.
C'est de notre faute.
Oui, c'est vrai ce que je dis, c'est de notre faute. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes dans cette autre dimension, les gens ils vont venir en courant. Ils n'iront pas en courant voir un match de football. Ils iront en courant voir Jésus, là où sa présence, là où sa gloire, là où sa guérison, les miracles, les signes, les prodiges coulent à flot, là où des milliers et des milliers vont tomber sur leur face et confesser Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Pas besoin de les supplier. Amen. Pas besoin de les supplier. Pas besoin de leur dire, oui, s'il te plaît, viens à l'église. Ou viens à Jésus, tu es perdu. Amen. On va revenir dans l'incompréhension et le danger d'interpréter d'une façon incorrecte les choses qui viennent de Dieu et de se mettre dans des problèmes. Je veux vous montrer l'attitude des Juifs vis-à-vis de Jésus. Dans Jean chapitre 8, on voit que certains vont croire. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors vous allez me dire, ah ben c'est bien, ils ont cru. Donc maintenant, s'ils ont cru, il faut les laisser tranquilles. Justement, non. S'ils ont cru, c'est le moment de creuser et d'entrer dans les choses dans lesquelles ces personnes ont besoin d'être délivrées et débarrassées. Donc Jésus continue. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Moi,
je me rappelle quand j'étais nouvellement convertie, je lisais ce genre de choses et j'avais envie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Ils ont cru en toi. Tout allait bien. Et maintenant, tu dis un truc, ça les fâche. Pourquoi tu as dit ça, Seigneur? Parce qu'en réalité, tout n'allait pas bien. Amen. Parce que s'ils ont cru et que Jésus leur dit une telle chose, ils vont continuer à croire. Alors que ce n'est pas le cas ici. Ils vont commencer à argumenter. Ils vont commencer à contester. Et en fait, ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, c'est ce qui va se ressortir jusqu'à ce que, à la fin, ils veulent lapider Jésus. On ne va pas lire tout le passage, mais on va lire un peu. Verset 33. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ? Et Jésus va leur dire : Mais vous êtes esclaves du péché. Et vous avez besoin d'être libérés du péché. Et après, ça va déclencher une telle haine dans le cœur de ces personnes qui veulent faire mourir Jésus. Et Jésus va leur dire au verset 37, « Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et au verset 59, je vous invite à relire tout ce passage chez vous et vraiment méditer dessus, mais au verset 59, il dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc voyez ce que Jésus dit à ces gens religieux. Et parfois Jésus va aussi parler à ses propres disciples sans pour autant provoquer le même genre de réaction. Dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Alors que Pierre vient de faire une déclaration extraordinaire, il vient de dire à Jésus : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après ça, Jésus va parler à ses disciples. Verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
ngo Yesu atangura guserurira abigishwa biyo ko akwiye kuzoja Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi n'abashingantahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge bivyanditswe no kuzokwicwa no kuzokuzurwa ku munsi ugira gatatu Petero aramwihereranya atangura kumwamira.
Voyez ici l'apôtre Pierre.
Hano Petero.
Il est dans l'incompréhension.
Niataura.
Il ne comprend pas que Jésus doit mourir.
Niataura ko Yesu ateza
gupfa. Et au lieu de se taire,
hakunuma.
Il dit à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas.
Aravuga ati byo nibizogushikira
mana. Et voyez ici Jésus ne va pas dire à Pierre,
Yesu yabwiye Petero.
Oh vraiment Pierre, tu es gentil.
Ati Petero mwana mwiza.
C'est juste que tu comprends pas.
Nuko udataura.
Et ça m'est difficile vraiment de te l'expliquer.
Mais
Jésus ne lui parle pas comme ça. Il lui dit : arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Et si Jésus s'était adressé aux Juifs de tout à l'heure, en leur disant exactement les mêmes choses, ces Juifs ont pris des pierres pour les lancer sur Jésus pour le tuer. Et Pierre a dû se sentir pas très bien, ça je dois l'admettre. Mais il n'avait pas le même cœur. Il n'avait pas la même attitude. Je vous assure que si nous voulons entrer dans cette dimension là où le temps n'existe pas, nous devons vraiment faire attention à notre cœur et à notre attitude face aux choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Un autre exemple et un dernier d'ailleurs dans Jean chapitre 6 où Jésus va enseigner à propos du fait que son sang est vraiment un breuvage et que sa chair est vraiment de la nourriture, et il se réfère au fait qu'il est le pain venu du ciel, le pain vivant, et les gens ne vont pas comprendre. Même certains de ses disciples ne vont pas comprendre. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. » Amen. 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 Voyez, l'apôtre, quand on lit les actes, on voit l'apôtre Pierre qui fait des miracles extraordinaires. Alors que d'autres, pas vraiment, on n'en entend pas vraiment parler. Et Pierre est rentré dans cette dimension. Mais ça lui a pris du temps avant de bien comprendre. Amen. Si il y a des choses que tu n'as pas comprises, s'il y a des choses dans lesquelles où tu as même fait des erreurs, pensant qu'il fallait faire comme si, alors qu'en réalité c'était autrement, ne te condamne pas plus que cela. Pardonne-toi tes erreurs et reviens sur la montagne. Pardonne-toi tes erreurs et promets à Dieu que la prochaine fois tu vas mieux faire, que juste tu as besoin de comprendre, prier pour comprendre. C'est ce que le Saint-Esprit dit encore et encore et encore, prier pour comprendre, prier pour comprendre Dieu, les choses de Dieu, les pensées de Dieu et la façon dont Dieu veut amener les choses. Prier pour comprendre, priez pour comprendre. Et si parfois vous avez pris une gifle parce que vous avez fait une erreur et vous vous êtes giflé vous-même tout seul, reviens parce que Dieu t'aime encore. Amen. Il t'a pas amené jusqu'ici pour te faire retourner en arrière. Reviens, humilie-toi. Pierre s'est humilié. Combien de fois il a pris des gifles parce qu'il était un petit peu trop émotionnel, parce qu'il ne comprenait pas vraiment bien les choses, mais il est toujours revenu. Par contre, à côté de Pierre, il y a tous ces hommes religieux qui ne comprenaient pas davantage, mais qui n'avaient pas le même cœur, qui n'avaient pas les mêmes pensées, et que parmi nous, aucune personne ne soit comme cela. Amen. Parce que Dieu vous appelle. Dieu, l'Esprit vous appelle. L'Esprit vous appelle pour ce temps. Pour ce temps. C'est le réveil. C'est le réveil. Amen.